Nous sommes ravis évidemment de vous voir aussi nombreux pour participer à cette rencontre. Rebonjour à ceux et celles qui étaient déjà présents ce matin à Sonner les Matines au Point Culture de Liège. Nous allons aborder d'autres choses, mais bien sûr il va y avoir des regroupements. Je dis peut-être simplement, ça va se présenter comme ceci, on va s'entretenir avec Paul Jorion, que je vais présenter dans un instant, pendant quelques minutes. Et puis, très largement, on souhaite donner la parole à la salle, donc vous donner la parole pour vos questions et remarques. Voilà. Pour ceux qui connaîtraient peu Paul Jorion, je dis simplement un petit peu son parcours, qui est un parcours romanesque, on pourrait dire. Puisque après des études de... Je parle sous ton contrôle. Après des études de sociologie, puis d'anthropologie, qui le mène notamment à suivre les cours de Lévi-Strauss à Paris. Paul travaille sur le terrain aussi avec des marins bretons, également en Afrique. Et puis il va passer plusieurs années à Cambridge, d'abord comme étudiant en thésard, et puis ensuite comme professeur. Et puis de Cambridge, d'une manière un peu improbable, tu vas travailler dans l'intelligence artificielle au Royaume-Uni, avant de te retrouver aux États-Unis et alors de traverser pendant plusieurs années différentes entreprises spécialisées dans le prêt hypothécaire notamment et le prêt à la consommation aussi, Countrywide par exemple. Et tu vas te retrouver alors volontairement, quelque part, au cœur de ce cyclone des subprimes qui va éclater en 2007. Ensuite, c'est la fondation, enfin, à ce moment-là déjà, c'est la fondation de ton blog, qui est le premier blog d'économie depuis des années hein, sur le net.
Ça fluctue, là. Oui, parce qu'en particulier, il y a un blog maintenant qui s'appelle « Les crises ». Qui se consacre essentiellement.
Olivier Verrouillé.
Oui, c'est ça. On consacre essentiellement à la crise en Ukraine, qui est classée comme étant première en économie, bien qu'il ne parle plus beaucoup de son économie.
D'accord. Et ton actualité récente, c'est l'année dernière ta désignation à la VUB, donc la vraie Université de Bruxelles, pour la chaire Stewardship of Finance. Et puis, alors tout récemment, ton livre en collaboration avec Bruno Coleman, chez Fayard, Penser l'économie autrement. Le titre de ce débat, l'extrême droite économique, une menace pour la démocratie, à l'initiative des territoires de la mémoire, j'aimerais l'aborder par un pied oblique pour commencer, te poser une première question qui est liée à notre actualité, à nous, citoyens belges. Avant-hier, une grande manifestation à Bruxelles, 100, 120 000 personnes dans la rue, un gouvernement qui a déjà annoncé qu'il était ouvert au dialogue, mais que d'un autre côté, il a porté de maintenir son programme gouvernemental. Ça m'a rappelé quelques souvenirs des manifestations monstres et des grèves générales en Grèce entre 2009 et 2011. Trêve Grèce générale, grève générale à ce moment-là, une autorité qui est maintenue contre vents et marées par le gouvernement. Est-ce que j'ai raison de faire ce parallèle entre, d'une part, l'austérité à la grecque et maintenant l'austérité à la belge ?
Oui, parce qu'il faut savoir que l'austérité, c'est un programme politique davantage qu'économique. C'est une façon de situer le politique comme étant par nécessité dicté par une logique économique qui ferait qu'il n'y a qu'une seule approche possible des problèmes. C'est le fameux « there is no alternative » de Madame Thatcher. Je prends même son accent, volontairement le disant. Tina. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y aurait une science économique qui nous dirait ce qu'il faut faire, et ce qu'il nous faut faire, c'est considérer que dans les situations difficiles, il n'y a qu'une variable d'ajustement qui sont les salaires, c'est-à-dire qu'il faut les faire baisser. Ça, évidemment, c'est un programme politique de nous dire qu'il n'y a qu'une alternative, qu'une possibilité dans les situations où nous nous trouvons. Ce qui renforce malheureusement un petit peu la plausibilité de cela, c'est qu'on a des partis dits de gauche, dits socialistes, qui appliquent d'enthousiasme le même type de politique. Donc ce qui renforce involontairement la plausibilité d'un discours de ce type-là. Mmh.
Je me souviens que sur ton blog, en parlant de cette austérité et des choses qui étaient mises en place, alors elles sont mises en place par la Troïka, des représentants de la Banque Centrale Européenne, de l'Union Européenne et du Fonds Monétaire International, il y a un tournant, semble-t-il, dans ta perception, qui est perceptible sur ton blog. Je me souviens d'un billet qui s'intitule « Les prêtres d'une religion féroce ». C'est daté du 6 novembre 2013, il y a tout juste un an, où tu écris « Jusqu'ici, les membres de la Troïka constituaient pour moi une entité abstraite. Il s'agissait de gens existant quelque part, manifestement dans l'erreur, et une erreur coupable et dangereuse. Mais, dis-tu, j'étais bien incapable de leur mettre un visage, si ce n'est pour leurs principaux dirigeants. Hier, donc c'était le 5 novembre de l'année dernière, j'ai vu et entendu au Parlement européen deux membres de la Troïka, et pas des moindres, puisqu'ils dirigent l'équipe qui s'occupe de la Grèce, Servaz de Rose pour la Commission européenne et Klaus Mazu pour la Banque centrale européenne. Et là, mon opinion sur la Troïka a tout à fait changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as vu au Parlement européen?
Je réfléchissais pendant que tu parlais en me disant qu'est-ce que j'ai véritablement vu. J'ai vu des gens de mauvaise foi. Je me disais, mais comment j'ai su que c'était des gens de mauvaise foi? Et en fait, je dirais, c'est le langage non-verbal. C'est le fait que c'était des gens dont on pouvait lire sur leur visage, la façon dont ils suaient aussi, en le disant, qu'ils disaient le contraire de ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire qu'en fait, mon idée, mon hypothèse, que peut-être c'était des gens qui se trompaient de bonne foi. Pourquoi? Parce que cet édifice qu'on appelle science économique était tellement branlant, il y a tellement de contradictions, tellement d'erreurs, qu'on peut imaginer que des gens... Et moi, j'ai rencontré des gens qui s'y perdent, je dirais, de bonne foi, qui croient que c'est un discours de type scientifique. Mais là, j'avais affaire à des gens qui savaient, qui disaient le contraire de ce qui était la vérité. Et donc, là, véritablement... Et il faut dire aussi que j'étais devant une salle qui m'avait frappé parce que j'avais été dans cette salle 2 ans auparavant. Et cette fois-ci, quand ces gens parlaient, dès qu'ils se mettaient à parler, ça commençait à gronder. Il y avait un vent de fronde parmi les parlementaires européens devant qui ils parlaient. Donc, je veux dire, ce sentiment que j'avais en face de moi des gens de mauvaise foi, il était partagé par une assemblée tout autour de moi.
C'est dans ce billet, me semble-t-il, mais tu en parlais déjà avant, que tu utilises l'expression « extrême droite économique » ou bien « fascisme en col blanc ». D'où te vient cette expression et quelle serait la filiation de ce fascisme en col blanc, l'origine et la filiation?
Oui. Oui, c'est-à-dire que bon, les gens me disent « oui, mais c'est pas les fascistes, les von Hayek, les Friedman, etc. » ce n'est peut-être pas le fascisme tel qu'on l'a vu en Italie, mais c'est une pensée qui est... C'est une idéologie qui est tenue par des idéologues qui essayent de tromper leur public en leur disant « c'est une science que nous défendons ». Et malheureusement, ils ont reçu un soutien massif, puisque si je parle de Friedman, je parle de von Hayek, ce sont des gens qui ont reçu des prix Nobel d'économie, c'est-à-dire qu'ils ont derrière eux tout l'ensemble, comment dire, la communauté des financiers qui s'exprime par ces prix Nobel, qui ne sont pas des point de vue purement technique, ce sont des prix de la Banque de Suède, à la mémoire d'Alfred Nobel. Ils ont été créés plus tard que les autres aussi. Et donc, il y a eu une volonté délibérée de la part de ces jurys de nommer des gens comme ceux-là, qui ne sont pas des gens, je dirais, comment dire, quelconques, et Friedman et von Hayek. Ce sont des gens qui se sont portés, ils n'ont même pas été appelés par Pinochet au Chili, ils se sont portés tous les deux volontaires pour venir le conseiller. Et dans le cas de von Hayek, il a passé la dernière année de sa vie à écrire essentiellement à des journaux pour dire qu'il y avait une campagne de diffamation contre Pinochet, que c'était scandaleux, etc. Or, ce sont des gens qui ont toute légitimité. On leur a donné des prix Nobel d'économie, alors que ce sont des idéologues, et non seulement ça, mais je dirais dans leurs conférences, dans leurs livres, ils ont parfois même décrit de manière assez, je dirais, candide leur projet. Von Hayek est au Chili, sous la dictature, et qu'il est interrogé par un journaliste, il dit en toutes lettres, c'est écrit, il n'a pas démenti, entre un régime libéral qui ne serait pas une démocratie et une démocratie qui ne serait pas libérale, je préfère le régime libéral qui n'est pas une démocratie. Donc c'est-à-dire que ces jurys de prix Nobel d'économie ont donné des prix à des gens qui se proclamaient antidémocratiques, contre la démocratie. Donc c'est quand même une chose à savoir. Tout ça n'est pas innocent. On se dit, le public se dit, si on leur donne un prix Nobel, ça doit être des scientifiques, etc. Or, c'est des gens qui ont un autre type de projet, dont ils décrivent de manière délibérée parfois la falsification qu'ils opèrent. Il y a une fameuse falsification de Friedman, qui consiste à dire que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, il a tellement martelé que la plupart des gens croient que c'est vrai maintenant. Même si la loi dit autre chose, même si la loi dit autre chose, il a convaincu de ça. Il a aussi défendu cette idée que les dirigeants d'une entreprise ne doivent se préoccuper que d'une seule chose, qui est le profit des actionnaires, au mépris des clients. Ils sont les premiers sacrifiés, parce qu'on parle toujours, en général, du fait qu'une entreprise travaille pour ses clients, et les employés de l'entreprise. Et ce sont des gens qui sont allés aussi loin de dire que, quand Friedman dit ça, il dit celui... Tout quiconque qui dit le contraire de ce que je dis est quelqu'un dont le discours va conduire inéluctablement au totalitarisme. Et dans sa bouche, évidemment, ce totalitarisme, ce n'est pas le fascisme de Pinochet. Non, c'est uniquement le communisme à la soviétique, parce que c'est pour, leur message a toujours été ça, marteler le message que dire le contraire de moi, c'est conduire inéluctablement à un communisme de type soviétique.
On retrouve finalement, formulé autrement, agi autrement, mais une arme de l'extrême droite depuis toujours, c'est l'intimidation. C'est-à-dire, ce n'est pas une intimidation par la force physique, encore que, hein, mais c'est une intimidation liée au prestige, liée aussi, je pense, au vocabulaire technique utilisé. Il y a comme une volonté de rejeter dans l'ombre la politique et le citoyen, et une volonté aussi même de se défendre de la politique, de les tenir à l'écart.
C'est créer un néo-féodalisme, c'est ça le but. C'est un néo-féodalisme qui n'est plus fondé sur la propriété foncière, qui est fondé sur la propriété de l'argent. Et il y a un rapport, bien entendu, entre cette idéologie et le calvinisme, puisque dans le calvinisme, il y a prédestination, et comment sait-on qu'on est un élu de Dieu? Par sa capacité à faire de l'argent. Et donc, vous savez, maintenant, on a traduit cette idée de prédestination par celle de talent, c'est-à-dire que si quelqu'un reçoit un bonus de 200 millions, eh bien, c'est l'évaluation du marché du talent de cette personne.
Sa créativité.
C'est le talent, voilà. Et alors, quand on vous dit, ben, on va taxer davantage les gens, et la réponse est immédiate, oui, mais vous allez faire disparaître le talent. C'est le mot qui est utilisé. C'est un néo-féodalisme déguisé en méritocratie.
J'ai parlé de cette difficulté de liée à l'intimidation qu'on peut ressentir, et puis aussi tu parlais de cette aristocratie de l'argent. Il y a une série d'autres difficultés que j'aimerais mettre en évidence avec toi. Une autre difficulté spécifique à cette extrême droite économique, c'est que ces personnes, on ne les connaît pas, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas passés par le système démocratique. D'où viennent-ils? Qui sont-ils?
Oui, c'est cette idée que puisque les gens ont du talent, eh bien, ils doivent pouvoir se coopter entre eux au poste de direction. Et voilà, bon, c'est le système de recrutement par cooptation à l'intérieur d'un groupe existant. Il suffit de voir les rapports au niveau européen entre la Commission européenne, qui a un pouvoir exécutif, et le Parlement européen, qui ne l'a pas, qui devrait l'avoir logiquement si c'était véritablement un Parlement. Il y a juste le droit de faire des propositions, et ces propositions, après, sont acceptées ou non par la Commission. Et le prétexte à cela, c'est évidemment c'est le fait qu'on a bâti, par exemple, donc la zone euro sur le schéma d'un système fédéral, mais en ne mettant pas des institutions fédérales en arrière-plan, pas d'unification fiscale, pas de dette commune, etc. Donc on a construit en fait un système, je l'ai mentionné déjà quelques fois, le fait que mon père qui était associé au début de ces choses-là, en particulier au début de la CECA, la Communauté européenne charbon et d'acier, disait on est en train de créer une Europe des marchands. Voilà, c'est ça, c'était donc les marchands. Pourquoi? Parce que cette méritocratie est essentiellement une méritocratie autour de l'argent, et donc c'est un système bâti sur le système... Enfin, ben, Aristote l'avait déjà décrit de cette manière-là, il disait il y avait deux manières de constituer... De proposer un système de gestion de la police, donc de la police, donc du système institutionnel, là c'est la cité ou l'État, c'est celui du bonheur de l'individu lié au bonheur de sa famille, ou bien on peut, si on est le marchand, et le marchand n'était ni un étranger à proprement parler, ni un citoyen dans la cité grecque, c'était un métèque, c'est-à-dire quelqu'un en fait... L'étymologie, c'est quelqu'un qui se déplace. Et dit Aristote, il y a une, Il y a une maladie professionnelle du marchand, c'est que son bonheur, il va croire que c'est l'accumulation de l'argent. Et alors il adresse un avertissement aux citoyens grecs en disant « Vous ne laissez surtout pas prendre par ce projet ». Or, ce projet, voilà, c'est celui qu'on nous impose depuis les années 1970. Les marchands ont pris le pouvoir et ils ont imposé leur système de méritocratie qu'on reconnaît par la capacité à créer de l'argent. On reconstitue une aristocratie, mais fondée sur l'argent et pas sur la propriété foncière. Mais c'est le même projet.
Oui, et cette aristocratie, cette méritocratie ou ce fascisme en Coblent, la difficulté de nouveau pour la cerner pour le public ou pour les citoyens, c'est qu'elle est... Elle n'est plus associée à un territoire ou à une nation comme l'extrême droite traditionnelle. Elle est transnationale. Tu dis écrit quelque part, je crois que c'est dans le livre avec Bruno Coleman, cette phrase « L'argent est apatride ». Donc on a affaire à une extrême droite qui n'est plus liée à un territoire.
Oui, oui. Mais il y a là, dans toute cette idée, parce que von Hayek était très loin d'être un imbécile, Friedman aussi, von Mises aussi, et beaucoup de ses penseurs, comme Murray Rothbard, qui est un extrémiste encore à l'intérieur de ce courant-là, puisqu'il a appelé son ultralibéralisme, il a appelé un anarcho-capitalisme. Il y a une représentation qui est celle que défend von Hayek dès le départ, c'est de dire dans les institutions humaines, il y en a deux types de catégories. Celles qui ont émergé spontanément, qui sont de bonne qualité qu'il faut maintenir, et celles qui ont été créées de toutes pièces, et qui, celles-là, en fait, ne sont pas, devraient être rejetées. Et alors, qu'est-ce qu'il a comme exemple d'institutions qui sont nées tout à fait spontanément ? Eh bien, la propriété privée, parce qu'il ne croit pas à Rousseau mettant en scène le premier qui a enclos un terrain en disant « il est à moi ». Non, la propriété privée aurait émergé spontanément. Et alors, pour une raison qui n'est pas justifiée ni évidemment justifiable, que l'État aurait été une décision délibérée de gens... Enfin, il faut dire qu'à sa décharge, des gens comme Rousseau ou comme Hobbes ont dit le contrat social, c'est-à-dire nous vivions tous en liberté, et puis un jour on s'est mis d'accord, on a voulu gagner un peu de sécurité en sacrifiant un peu de liberté, on s'est mis d'accord et on a créé l'État de manière délibérée par le contrat social. Donc on lui a tendu un peu, je dirais, quelque chose qu'il a pu réutiliser. Et alors l'État, ben, ils font s'en débarrasser, il faut limiter le rôle de l'État à maintenir un cadre dans lequel une aristocratie d'argent peut fonctionner, c'est-à-dire la libre concurrence. Donc le seul rôle qu'il faut véritablement reconnaître à l'État, c'est celui de maintenir un cadre dans lequel il y a une compétition parfaite. Et tout le reste est plus ou moins négociable, si ça doit être privé ou non. Un type comme Rothbard dit non, tout le reste doit être privé. Il n'y a pas de raison qu'on se réunisse en tant que citoyen pour décider d'une guerre avec l'ennemi. On a qu'à laisser ça à l'initiative privée. Et donc chacun créera son armée pour défendre les idées qui sont les siennes. Plus d'éducation publique, uniquement de l'éducation privée, etc. L'image qu'on appelait au 19e siècle, c'est l'État veilleur de nuit. Voilà. S'occupe juste de maintenir un cadre.
On trouve ces discours dans des factions politiques contemporaines, là maintenant, ici, aux États-Unis, par exemple, où...
Il y a ces fameux, les grands ennemis de M. Obama, ce sont les frères Koch, qui sont effectivement des représentants de ce courant libertarien, et qui utilisent leur argent du mieux possible pour dévoyer le fonctionnement démocratique des institutions. Au moment où on commence à débattre de la loi Dodd-Frank pour essayer vers 2009 de créer un cadre qui empêcherait qu'on reproduise un accident comme celui de septembre 2008, il y a les grosses fortunes ont dépensé $1 million par congressiste pour combattre ces mesures. Donc dans une démocratie où l'argent n'est pas, où il n'y a pas de restriction dans l'utilisation de l'argent en politique, comme c'est le cas maintenant aux États-Unis en raison d'une décision délibérée de la Cour suprême des États-Unis, il est possible effectivement donc de dévoyer de manière massive le fonctionnement d'une démocratie.
Une question qui devrait paraître un peu provocante, mais quand en Europe on cherche à se protéger contre l'extrême droite, on a en tête qu'il faut se protéger contre les résurgences de cette extrême droite des années 30. Une chef de groupe socialiste parlait de bruit de bottes récemment. Alors il y a cette extrême droite des bruits de bottes, mais est-ce qu'on n'a pas en restant focalisé sur celle-là, une extrême droite de retard, entre guillemets,
oui, oui.
C'est-à-dire qu'on néglige complètement cette autre extrême droite dont tu nous parles.
Ben, on a toujours un retard sur l'histoire. Hein. Il suffit de voir les discours de la Révolution française. Ils nous parlent des Gracques, ils nous parlent de Brutus, etc. On cherche toujours des modèles, mais ce sont toujours des modèles qui sont obsolètes en réalité, qui ne décrivent pas la véritable réalité du temps. Et c'est pour ça que j'ai repris cette expression de Hegel comme titre de ce livre, « Comprendre les temps qui sont les nôtres ». C'est une citation de Hegel dans cette partie de sa réflexion sur la philosophie de l'histoire, où il parle des grands hommes. Il parle des grands hommes, ses exemples à lui, c'est Alexandre, César et Napoléon qui vient de voir récemment à cheval dans les rues de Iéna. Il dit qu'est-ce qui fait la différence de ces gens-là par rapport à des politiciens de type commun ? Ce sont des gens qui ont compris l'époque dans laquelle ils étaient. Ils n'ont pas eu la nécessité de faire des métaphores à partir de situations anciennes. Ils ont compris dans quoi ils étaient et chaque période évidemment a une spécificité. Et si l'on veut pouvoir faire avancer les choses, il faut savoir quelle est la spécificité de la période dans laquelle on est. Alors, pour répondre à ta question, oui, notre image du nazi avec son salut et tout ça, de croire que le seul danger pour nous, c'est de voir ça dans les rues, non. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont en place, qui ne sont pas identiques, mais qui relèvent du même projet de... On peut appeler ça une aristocratie, mais le mot aristocratie malheureusement est utilisé parfois de manière méliorative comme un compliment, ce sont des se mettre en place des oligarchies mais qui soient figées véritablement,
Deux trois petites questions avant de vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a des endroits quand même où il y a une jonction entre ces deux extrêmes droites, entre l'extrême droite qu'on va appeler sinistrement classique et cette extrême droite en col blanc?
Ben oui, parce qu'on l'a vu en Allemagne hitlérienne, par exemple. On a vu qu'il y avait un milieu d'affaires, un milieu industriel qui était relativement, comment dire, pendant une époque, il était relativement neutre par rapport à ce qui se passait, avec la seule loi qui joue d'habitude dans ces milieux-là, c'est que si le business peut continuer, on va continuer dans cette voie-là. Et puis il y a eu, dans le cas de Hitler, il faut bien dire, il y a eu un revirement. J'oublie le nom de ce penseur qu'il a inspiré, qui n'était pas un marxiste, qui était un socialiste, qui avait fait une très très bonne analyse justement sur les liens entre le pouvoir et l'argent.
Nikitsch. Ernst Nikitsch.
Oui, c'est ça, probablement, oui. Et donc, vient le moment où Hitler, qui en fait était qui a écouté avec enthousiasme les conférences de ce type, et qui le mentionne, je crois, dans Mein Kampf, l'industrie lui dit, si vous baissez un petit peu le ton, ben on va être derrière vous. Et donc, il y a un retournement.
Et dans le monde contemporain, là, aujourd'hui.
Ben oui, par exemple, si on prend par exemple le Front National en France, bon, c'est vraiment un parti, je dirais, d'extrême droite classique. Il suffit peut-être pas tant Madame Marine Le Pen qui essaie de jouer un rôle un petit peu différent, mais enfin son père en tout cas. Je dirais là, c'est un fasciste de type tout à fait classique. Mais c'est un parti, il faut bien le dire, dont la seule plateforme économique et financière, etc., c'est un parti qui a pris les idées qu'il défend là et qui rassemble un certain enthousiasme du public. Il a pris ça à la gauche. Emmanuel Todd, Lordon, Sapir ont leurs idées entièrement recyclées de ce côté-là. Il faut dire que moi aussi, on m'a fait une ouverture du côté du Front National. On m'a dit, écoutez, vous faites partie des gens dont les idées nous intéressent vraiment. Est-ce qu'on pourrait collaborer ? Alors j'ai posé une condition telle qu'elle était inacceptable pour eux. Et la conversation s'est arrêtée là. C'est parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut les prendre. Il faut leur dire, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, à condition que vous soyez au moins d'accord sur ces choses choses élémentaires.
Notamment la fraternité.
Voilà, la fraternité, oui. Allez, ah non, pas tout de suite, pas maintenant, plus tard, on s'occupe de ça. Voilà, très bien.
J'attire ton attention sur les petits dessins qui passent en ce moment et qui sont en général bien tapés. Ouais. Je voudrais poser deux dernières questions avant vraiment de vous donner la parole. comme c'est aussi parce que cette rencontre est faite à l'initiative des territoires de la mémoire, et je pense que dans cet intitulé, dans ce nom, les territoires de la mémoire, il y a l'idée que une des façons de lutter contre cela, c'est d'entretenir une certaine mémoire. Alors la mémoire de quoi? Quelle mémoire faudrait-il? J'ai ma petite idée que je vais donner dans un instant avec un extrait de cette bande dessinée, La survie de l'espèce. Mais quelle serait la mémoire qu'il convient d'entretenir?
Ben, si tu, je ne sais pas ce que tu entends citer, mais tu pourrais citer effectivement ce jugement sur le cas du bois du casier.
Oui,
c'est ça que tu voulais citer, oui, bon, oui. Bien sûr. Oui. Alors, une fois que tu l'auras lu, j'ajouterai quelque chose.
D'accord. Ouais. Donc, c'est juste un extrait de cette bande dessinée où se trouve un texte, d'ailleurs, qui est issu au départ, qui est aussi présent dans ce livre, Comprendre les temps qui sont les nôtres. Je le lis in extenso, il n'est pas très long. Donc c'est à propos de la catastrophe de Marcinelle. 1956 fut une année de parents au visage grave. Marcinelle en août, Budapest en novembre. Le feu avait éclaté au puits du bois du casier. Je me souviens de la une du soir de Bruxelles. Les familles aux nouvelles, massées sur le carreau de la mine. La catastrophe fit 262 morts, des Belges bien sûr, 95, mais surtout des immigrés italiens, 136, calabrés pour la plupart. Dans les attendus du procès en responsabilité du bois du casier, on trouve la phrase suivante, que je vais lire lentement. L'économie, quelle que soit son importance pour le bien général, ne peut prétendre étouffer les autres valeurs, la vie étant le plus grand de tous les biens et devant être protégée jusqu'aux limites les plus extrêmes. Voilà, une mémoire... dont il faut se souvenir.
Alors, deux choses que je voudrais dire. La première, c'est qu'en fait, je suis retombé plus tard, après avoir écrit ça, enfin avoir recité ce passage, je suis tombé sur un passage, un discours de Robespierre qui dit exactement la même chose. Donc, c'est dans cette inspiration-là. Et aussi, le billet que j'avais écrit, que Maclès a illustré là, je le terminais en parlant de la chose suivante, parce qu'au moment où on parle du sacrifice donc, du travailleur, une image qui m'est venue à ce moment-là, c'était celle de l'école primaire. Moi, j'ai fait l'école primaire dans l'enseignement public, et il y avait sur le bureau de mon instituteur, il y avait une sculpture connue, bien connue de Constantin Meunier, qui est un mineur épuisé. Et en y réfléchissant, voyant cette scène, je pensais que ce mineur épuisé, c'était le pendant dans les écoles publiques du Christ en croix dans les écoles catholiques. Mais finalement, le message était le même. C'est qu'on vit dans des sociétés où une partie de la population ou certains types d'idées est sacrifiée de manière systématique depuis des siècles, voire même des millénaires.
Dernière question. Quelle stratégie de résistance est-ce que tu verrais pour contrer cette extrême droite économique, ce fascisme en col blanc?
Moi, je ne vois que la dénonciation, c'est de faire ce comme je fais, c'est de les appeler fascisme en col blanc, de leur donner le nom qu'ils méritent, de les appeler religion féroce, de souligner que le discours qu'ils prétendent défendre, qu'il sera un discours de type scientifique, de souligner à chaque moment qu'il s'agit en fait d'un dogme qui n'a absolument pas de qualité scientifique. Là, je vais peut-être ajouter une petite chose, c'est que, ça c'est mon expérience quand j'avais travaillé dans le milieu bancaire, il y a un fameux modèle qui s'appelle le modèle de Black & Scholes, qui est un modèle qui permet d'évaluer le prix qu'on doit demander pour une prime, pour une option, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais j'avais découvert, enfin je savais comme beaucoup de mes collègues, que en fait ce modèle est faux, depuis qu'il a été mis en circulation vers 1975, il est faux, il donne de mauvais résultats qu'il faut corriger. Alors quand on bricole pour le corriger, il suffit d'ajouter en fait un paramètre ou une variable qui est celle du profit, et le modèle commence à fonctionner. Mais ce que je ne savais pas, c'est que M. Scholes lui-même, créateur de ce modèle, je ne savais pas qu'il savait lui-même qu'il était faux. Et c'est dans un livre par un certain Donald McKenzie, qui est un sociologue des sciences, qui a fait un livre qui est fondé essentiellement sur des entretiens qu'il a eus justement avec des prix Nobel d'économie. Et quand il demande à M. Scholes s'il était au courant du fait que tout le monde considérait que son modèle était faux, il dit « mais oui, mais c'était volontaire, c'était délibéré ». Pourquoi ? Parce que si nous l'avions fait autrement, si nous l'avions fait correctement, nous aurions mis en danger l'ensemble de la théorie existante. C'est-à-dire, c'est la définition même d'un dogme. On dit quelque chose, mais on ne le dit pas parce qu'on pense que c'est vrai, mais simplement parce qu'on ne veut pas remettre en question le dogme qui est déjà là, en présence. Donc, et Mackenzie souligne, et ça vaut la peine d'être souligné, c'est qu'en fait, dans toutes ces théories récentes économiques aux États-Unis, elles ont été créées en général dans des écoles de commerce et pas dans des facultés universitaires. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui s'est spécialisé dans cette falsification du discours, qui étaient les écoles de commerce plutôt que les facultés universitaires, qu'on peut d'une certaine manière exempter un petit peu. Encore que l'école de Chicago, à l'époque, justement, avec Friedman et Hayek, ça c'était un département universitaire à l'université de Chicago. Mais par la suite, je dirais, la falsification s'est faite plutôt dans les écoles de commerce. Et il y a ce pire qui me revient, c'est le jour où je décide d'arrêter de suivre les cours à l'école Solvay à l'ULB. C'est quand le professeur de comptabilité dit « Comment est-ce qu'on représente ceci ?» Et il dit « Bien voilà, on va le représenter de telle manière. » Et il écrit un truc manifestement faux sur le tableau noir, et en se tournant vers nous, les étudiants, et en faisant des grands clins d'œil. C'est-à-dire qu'en fait, disant « Voilà, c'est quelque chose de faux, mais c'est comme ça que je vous dis qu'il faut le faire. » Voilà, c'est le type. On n'imagine quand même pas ça dans une faculté de sciences. Oui, sauf à l'époque de Galilée.
Oui, mais ça me faisait penser à ça. Oui, on ne peut pas. Oui, on sait que le modèle est faux, mais on ne peut pas l'admettre. Ça fait tout à fait penser à ça. Et je fais le lien aussi entre ce clin d'œil de ce professeur vers ses étudiants en mettant un modèle faux au tableau et ce que tu disais au début du langage corporel des membres de la Troïka. C'est-à-dire, dans les deux cas, on a une mauvaise foi assumée et qui se traduit par un langage corporel. Biaisé.
Oui, ce sont des gens qui défendent des intérêts et non pas un discours qui aurait l'ambition d'être juste ou vrai. Oui.
La question qui se pose, c'est comment désobéir. Mais la parole est à vous. Monsieur. Il n'y a pas de micro pour les questions, si peut-être. Merci. Monsieur ici, puis on vient tout de suite.
Bonjour, donc je voudrais quand même faire un petit rappel historique pour Territoire de la mémoire. Il faut savoir qu'en 1940, Henri Demant, qui était président du Parti socialiste de l'époque, a déclaré que la victoire de l'armée allemande, loin d'être une défaite, est une délivrance, et que ce monsieur a créé l'UTMI, Union des travailleurs manuels et intellectuels, le seul syndicat autorisé sous l'occupation. Pendant ce temps-là, les premiers résistants à Liège étaient les membres de la Légion nationale, une organisation fasciste calquée sur celle de Mussolini. Les dirigeants de la Légion nationale, pour certains d'entre eux, sont morts en déportation en Allemagne. Donc j'attends toujours que Territoire de la mémoire diffuse ce genre d'informations. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais alors, par rapport à vous, j'aurais quand même...
Je laisserai éventuellement un droit de réponse à quelqu'un des territoires.
Voilà. Alors, je voudrais quand même signaler qu'il y a une sorte de confusion au niveau du vocabulaire entre le mot extrême droite, le mot fasciste et le mot nationaliste, en ce sens que l'extrême droite, c'est la droite de la droite. Donc Pinochet, Franco, c'est bien des gens d'extrême droite. Maintenant, Mussolini ou Hitler, ce ne sont pas des gens d'extrême droite, ce sont des gens qui ont des idées sociales, voire socialistes. Mussolini, c'est quelqu'un qui vient de la gauche. Donc ce sont des gens qui ont peut-être fait preuve d'un certain opportunisme politique en allant, à un moment donné, avoir des accords avec la haute finance, mais ils n'ont rien à voir avec l'extrême droite. Donc ce sont deux choses complètement différentes. D'ailleurs, on voit par exemple qu'en Espagne, il y a eu l'existence de deux mouvements, parce qu'il y a eu Franco et il y a eu la Falange, et que Franco a dû, en quelque sorte, canaliser et combattre, même d'une certaine manière, la Falange. Et alors, il y a le troisième terme, qui est le terme nationaliste. Le nationalisme né en France avec la Révolution française, puis en Allemagne, en résistance à l'occupation napoléonienne, puis se développe un peu partout en Europe. Donc, le nationalisme est né avant 1815, le fascisme est né, d'un point de vue théorique, juste avant la Première Guerre mondiale, et il se développe avec D'Annunzio à Fiume, d'abord, puis en Italie avec Mussolini, après la Première Guerre mondiale. Donc il y a 100 ans de différence entre le nationalisme et le fascisme.
Alors
donc,
ce sont trois termes je salue votre expertise, mais est-ce qu'on pourrait...
Oui, voilà. Et donc ici, les gens que vous dénoncez, vous, en réalité, ce sont des ultra-libéraux, des ultra-capitalistes, qui veulent l'ouverture des frontières et la mondialisation. Donc ce sont des gens qui sont des ultralibéraux, des ultracapitalistes. Vous pouvez à la limite les cataloguer d'extrême droite, puisqu'ils ont des sympathies pour Pinochet, mais ce ne sont certainement pas des fascistes, et encore moins des nationalistes. Et les gens qui combattent ces idées des ultralibéraux, ce sont justement les nationalistes, des partis comme le Front National, en France, ou PVV aux Pays-Bas, ou le FPÖ en Autriche, et aussi en Italie, le mouvement 5 étoiles de Bébé Griot. Ce sont des jeux, ces gens-là qui sont opposés à l'ultracapitalisme.
Donc, est-ce que
la principale résistance à ce que vous énoncez, c'est justement les partis nationalistes, comme le Front National de Marine Le Pen.
Oui, très bien. Eh bien, alors, je vous accorde que peut-être Hitler et Mussolini n'étaient pas d'extrême droite, mais je vous dis que von Hayek et les Friedman le sont. Voilà.
Oui, mais la principale résistance à tout ça, ce sont les partis nationalistes, à l'heure actuelle, qui s'opposent à la mondialisation.
Le parti, le Front National, n'a pas de programme économique. Il n'a pas de programme économique. Oui, il rassemble un certain nombre d'éléments qu'il est allé piquer essentiellement dans différents courants de gauche ou d'extrême gauche. Il en fait quelque chose. La question, c'est que si l'expérience de Hitler est transposable, on peut imaginer que ces gens-là, quand il faudra faire le choix entre s'attacher à des principes qui pourraient être éventuellement inspirés de la gauche, parce que vous avez mentionné De Man n'est pas un cas isolé. Oswald Mosley était aussi la grande vedette du Parti travailliste britannique avant de créer le Parti fasciste britannique. Georges Sorel est un grand penseur d'extrême gauche, en fait, et qui est la grande inspiration de Mussolini. On le sait bien, oui, les choses sont compliquées. Moi, je parle essentiellement de ces gens maintenant qui ont créer ce dogme qui est l'inspiration de la Commission européenne, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, etc. Et je dénonce le fait que ce n'est pas un discours de type scientifique qui justifie leur discours à eux, c'est un discours idéologique qui présente tous les caractères du dogme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être remis en question, et il en a besoin en disant qu'il est la seule possibilité, que c'est un discours, qu'il n'y a pas d'alternative à ce discours qui est tenu. Alors que le projet a été défini de manière claire par von Hayek, c'est reconstituer une aristocratie sur un modèle féodal, et cette aristocratie se fonde sur la capacité des gens à faire de l'argent, à rassembler de l'argent sur leur compte en banque.
Votre question est aussi révélatrice d'un certain brouillage autour de toutes ces notions qui peut désarçonner. Il y avait une question de monsieur, et puis je vous donne tout de suite la parole. Oui, j'aimerais quand même dire qu'on est, alors, au-delà des nuances, on est face à des mouvances antidémocratiques, et c'est aussi cela qui suggère nos interrogations. Oui.
Bonjour. Vous avez dit que l'austérité ne reposait pas sur un fondement économique, que c'était plutôt de l'idéologie politique. Donc, si je comprends bien, au lieu de pratiquer l'austérité, il faudrait augmenter les salaires, ils ont 20%, toutes les prestations sociales, les pensions, les allocations de chômage. Mais est-ce que c'est réaliste dans le contexte actuel si on ne change rien d'autre? Est-ce que les petites entreprises vont pouvoir encaisser ça? Est-ce que la dette publique ne va pas augmenter encore plus et créer d'autres problèmes? Voilà.
Oui. Non, la difficulté, c'est effectivement qu'il faudrait modifier un certain nombre de choses concurremment. Sinon, on se trouve toujours dans cette position où on modifie un détail et tout le reste ne vient pas. Par exemple, on l'a vu dans les politiques de relance, quand on donne de l'argent aux banques pour que les banques le prêtent, on l'a vu aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Les banques ne le prêtent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de candidat qui, dans la logique justement où il y a une prime de risque associée au taux d'intérêt qui est demandé, cette prime serait très élevée et par conséquent, il n'y a pas de prêts qui sont faits. Par conséquent, cet argent va se placer pour créer des bulles boursières, etc. De la même façon, quand moi je dis qu'il faudrait revenir aux lois qui interdisaient la spéculation, si on modifie que cet élément-là, eh bien, il y aura des sommes considérables dégagées qui, dans le contexte qui est celui que nous avons aujourd'hui, pourraient uniquement aller se placer sur des biens immobiliers, c'est-à-dire produiraient une bulle immobilière. Donc, quand on modifie un élément, il faut effectivement imaginer et comprendre qu'on se trouve à l'intérieur d'un système. Ce livre que j'ai publié récemment donc avec Coleman, la chose qu'on peut lui reprocher, c'est le cadre que lui a donné Marc Lambert en posant les questions. C'est-à-dire, c'est un cadre où les différents éléments sont complètement déconnectés. On va parler du travail dans un chapitre, on va parler de la dette publique dans un autre, etc. Il n'y a pas une construction de type théorique qui relie tout ça ensemble. Bon. Il y a une critique très bien faite, d'ailleurs, qui vient de sortir dans le journal qui s'appelle La Quinzaine littéraire, et qui fait cette critique-là, en disant que ça ne produit pas, même si les propositions sont bonnes, ça ne produit pas un discours cohérent, parce que ces éléments sont des éléments déconnectés. Oui, il faut réfléchir aux choses que nous voulons modifier à l'intérieur d'un cadre où tout ça doit se tenir. On en a parlé ce matin, c'est la question de la croissance ou de la décroissance. Il faut savoir que nous sommes dans un système où la croissance est nécessaire pour payer les intérêts et que par conséquent, si on veut être dans un système décroissant, il faut reposer la question de savoir pourquoi nous payons des intérêts sur les choses qui sont produites ou si nous les exigeons dans tout type de prêt que des intérêts soient versés.
Donc il faudrait une réflexion beaucoup plus large qui englobe tous les aspects.
Oui, tout à fait. C'était ça, oui, c'était ça l'originalité du livre de Keynes en 1936, sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. C'est qu'il propose, et bon, c'est un édifice qui est un peu branlant, mais il propose tout un nouveau cadre pour réfléchir le problème. Et il a la capacité de le faire, essentiellement parce qu'il n'a pas une formation d'économiste, une formation de mathématicien et de philosophe, et il repose le problème à zéro. Dans les livres que moi j'essaie de produire sur l'économie, j'essaie de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire produire un nouveau cadre dans lequel réfléchir aux choses.
Il faudrait peut-être pour votre prochain livre faire une synthèse générale de tous ces points-là.
Oui, le manuscrit il sera déposé le 6 février.
Ceci dit, avant, monsieur, au fond, pendant qu'on voit sur le micro, moi j'encourage chacun à lire L'argent, mode d'emploi de Paul Jorion, qui est un livre. Extrêmement clair et qui remet à plat notamment tout ça, le rôle de l'intérêt.
J'ai le 6 livres de monsieur.
D'accord, alors vous connaissez, mais je le dis aussi pour tous ceux qui n'ont pas lu. Pour les autres, oui, monsieur.
Oui, je vais être très bref, mais je ne peux pas ne pas réagir aux propos de la première question. Oui, ce sont clairement des propos type du Parti Nation, donc. Très clairement, c'est ce genre de propos que l'on retrouve sur leur site, dans leur littérature, et je ne veux pas ne pas le mentionner, et que sur Paul Ornarts et la Légion nationale, les territoires de la mémoire ont notamment publié dans un numéro précédent d'Aide-mémoire une analyse de l'idéologie de Paul Ornarts qui montre bien que Paul Ornarts appartient clairement à un moment donné dans son parcours, notamment à partir du moment où il fonde effectivement le premier parti fasciste, en Belgique, et qu'il résiste. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il résiste? C'est ça qui est intéressant à analyser. Mais je ne vais pas faire trop long là-dedans. Je renvoie ceux qui sont intéressés à ce numéro d'aide-mémoire qui est disponible sur le site et qui est disponible ici, qui montre bien que l'idéologie de Paul Ornarts est une idéologie d'extrême droite. J'en parle de plus en plus, totalement à l'aise, puisque c'est moi qui ai écrit cet article-là, et que depuis plus de 10 ans, j'analyse le discours d'extrême droite et je montre bien les liens entre des discours de Paul Ornarts, de Mussolini, d'Hitler et de Le Pen ou de gens qu'on a cités aujourd'hui. Donc je veux avoir une réaction puisque les territoires étaient interpellés et que je ne veux pas laisser passer non plus sans le décoder le discours du premier intervenant.
Très bien, ben, le terme aide-mémoire prend tout son sens aussi. Une autre question, une autre remarque, monsieur ?
Moi, c'est votre ouvrage avec monsieur. C'est pour votre ouvrage avec M. Coleman. Donc, je commence à parcourir, j'ai lu un quart, un tiers, je n'ai pas encore terminé. Mais, je parle sous conditionnel, puisque je n'ai pas terminé.
Oui, parce que le meilleur est à la fin.
Ah, peut-être, mais je zappe un peu aussi, mais voilà, sachant que c'était aujourd'hui votre intervention.
Donc, je présente.
Oui, ma question est, je pense que M. Coleman est un des pères fondateurs des intérêts notionnels, si je pense pas me tromper, et de vous demander, mais en toute sympathie, bien entendu, compte tenu que monsieur a posé aussi la question, que vous avez dit que c'était un peu des questions, un peu pas bric-à-brac, hein, c'est cohérent, mais je veux dire, effectivement, monsieur Coleman est toujours quand même porteur d'une idéologie capitaliste dominante, même s'il a quelques regrets après 30 ans. Mais j'ai fait l'économie, après 6 mois, je me suis rendu compte que c'était des maths partout, c'était un cycle, il a fallu 30 ans. Mais je veux dire, est-ce que vous n'êtes pas un peu piégé en ce sens que monsieur Coleman est quand même une personnalité de droite qui cautionne comme l'économie, même s'il a quelques frayeurs maintenant. Est-ce que vous, donc, je répète ma question, est-ce que vous n'êtes pas un peu frayé dans un peu, pas guet-apens, j'exagère, mais quand même.
C'est un traquenard.
Un petit traquenard, mais je n'ai pas fini de lire. Voilà, c'est un peu une question.
Ouais. Alors, c'est une question que beaucoup de monde s'est posée, je pense.
C'est la question de savoir, est-ce qu'on parle tout seul? est-ce qu'on parle tout seul ou est-ce qu'on parle éventuellement en dialogue? Il y a, par exemple, quelqu'un qui défend des idées très proches des miennes ou moi des siennes, c'est Frédéric Lourdeau, qui refuse le débat. Il refuse de se trouver dans un débat avec des gens qui représentent des idées de droite ou d'extrême droite, etc. Moi, c'est pas ma politique. J'ai l'impression qu'on peut gagner quelque chose par la conviction. Le fait que maintenant, Coleman répande partout l'idée qu'il défend des positions qui sont des positions plus à gauche sous l'influence des discussions que nous avons eues, je trouve que c'est un élément positif. Moi, je n'ai pas le sentiment du tout que mes positions à moi évoluaient dans ce discours avec lui. Je crois que c'est... Il y a un avantage... Bon, pourquoi accepter ce débat avec Coleman pour commencer ? Parce que je le connaissais suffisamment pour savoir qu'un débat serait possible, au sens suivant. C'est-à-dire que je me trouve souvent avec des penseurs qui sont classés comme au même endroit que lui, mais des gens avec qui je ne pourrais même pas me mettre d'accord sur la définition de quoi on parle. Parce qu'on aurait des représentations tout à fait orthogonales, comme disait le mathématicien, des choses dont on parle. On perdrait un temps fou à même essayer de trouver, je dirais, des phrases dont le sens est le même. Avec Coleman, nous avons tous les deux, je dirais, une compréhension technique des problèmes pratiques, par exemple sur les produits dérivés ou des machins comme ça. Nous comprenons le problème comme étant le même. Nous savons aussi qu'il y a des options possibles, quand est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ces situations-là. Et là, nous avons des options différentes. Lui, il propose une chose, moi je propose le contraire. Mais il me semble que la deuxième chose que je voulais dire, et ça je pense que c'est quand même un avantage, c'est qu'il y a des choses dont moi je parle spontanément parce que ce sont des expériences que j'ai connues, parce que j'ai réfléchi à tel ou tel problème, et pour moi je considère que c'est un bon aiguillon que quelqu'un me pose des cols, des énigmes, en me disant voilà ça, est-ce que tu peux répondre à ça, et ça m'oblige à aller à des endroits où j'ai pas envie d'aller nécessairement. Par exemple, sur un certain type d'argument qu'il a sur le caractère éventuellement positif du fait qu'il y ait des bourses et que ces bourses soient en continu, etc. Ça m'oblige à affiner un petit peu les idées que j'ai sur les approches techniques. Et je crois que c'est ça le bénéfice essentiellement. Alors, j'ai par ailleurs, comme tu l'as dit, j'ai des livres où j'écris tout seul et là où j'ai davantage de liberté pour développer un argument du début à la fin et pour recréer un nouveau cas au cas où je considère que le cadre habituel n'est pas le cadre qui convient.
Alors on va peut-être en rester là. Je voudrais vous remercier de votre présence, de votre attention. Je voudrais aussi juste peut-être vous donner un rendez-vous. Le prochain Sonner les matines au Point Culture de Liège aura lieu le samedi 13 décembre, ce sera à 10h ou 10h30 avec Jérôme Jamin et nous nous intéresserons aux extrémismes et populismes dans l'Union Européenne. On fera une sorte de parcours de l'Union, de l'extrême droite dans l'Union Européenne, en commençant par regarder chez nous, évidemment. Et je remercie les organisateurs, je remercie Julien Paulus de son accueil et je remercie chaleureusement Paul Jorion de sa présence parmi nous aujourd'hui. Merci.